Bonsoir, comment allez-vous ? Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. C'est parce que cette phrase est évidente qu'elle est drôle, mais elle n'est pas drôle et évidente pour tout le monde. Beaucoup pensent que notre mission sur cette terre, c'est d'évoluer, et que c'est la souffrance qui fait évoluer. Bien au chaud sous la couette, on ne bougerait pas si on n'avait pas quelque chose de désagréable pour nous faire sortir de là. Un besoin pressant, une nécessité de travailler, de s'occuper des autres, ou le mortel ennui. Tiens, mortel. Notre invité pense qu'il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade, mais riche de quoi ?
France Inter, État d'esprit, Noël Bréham.
Luc Ferry, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'ici.
Avec bonheur.
Alors, je vais essayer de vous présenter en n'étant pas trop longue. Vous êtes agrégé de philosophie, écrivain frénétique. Vous avez 3 filles, ancien ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nationale. Vous aimez les voitures de course, le dériveur et le violoncelle. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce qu'une vie réussie ? C'est ce que nous allons vous demander ce soir. Mais ce sont aussi les titres de vos livres, édités chez Odile Jacob et chez Grasset en 2000 et 2002. Parallèlement à cette réflexion, vous avez l'exaspération facile. Là, vous vous en prenez à la mode du bonheur obligatoire. Vous vous en étiez déjà pris avec Alain Renaud aux Idoles de 68, dans La Pensée 68, chez Gallimard. Les Bourdieu, Foucault, Derrida, Deleuze, Lacan se sont fait un peu écorcher par vous. Et chez Glénat, on peut lire en bande dessinée, avec un commentaire à la fin du livre, les 4 volumes des Sagesses des mythes. Et vous venez d'écrire « Cette façon d'être heureux » ou « Les paradoxes du bonheur », c'est édité chez Ixo. Vous vous insurgez dans ce livre contre les marchands de bonheur. Le développement personnel est une illusion, car le bonheur ne vient pas de la personne. D'ailleurs, le mot « bonheur » ne vous convient pas. Autant le malheur, dites-vous, est facile à cerner, autant le bonheur est indéfinissable. Vous lui préférez la vie bonne. Et avec vos amis les philosophes, les mythes et les légendes, vous listez et développez quelques verbes qui contribuent à vivre cette vie bonne. Aimer, admirer, s'émanciper, élargir l'horizon, apprendre, créer, agir. Vous avez remarqué, ce n'est pas par ordre alphabétique. Alors, c'est par ordre de quoi, Jules Ferry ?
Luc Ferry, plutôt.
Ah, ça, j'en étais sûr.
C'est pas grave, Chirac m'a fait la même chose un 14 juillet.
C'est classe.
Devant plusieurs millions de Français.
C'est court et il y a du...
Alors, ah, ça me poursuit depuis l'âge de 5 ans. Rassurez-vous, c'est pas grave.
Surtout pour un ministre de l'éducation, qu'est-ce que vous voulez ?
Alors, et Luc Ferry. Et en plus, j'étais dans son bureau.
C'est vrai ?
Bien sûr, oui, j'étais dans son bureau. D'ailleurs, avec un buste de Jules Ferry, avec ses favoris. Et c'est ma famille, comme vous le savez. C'est un cousin. Enfin, je suis un cousin, soyons modestes. Non, c'est classé par ordre logique dans le développement du livre. Voilà, moi, j'aime bien écrire des livres qui soient un peu dramatiques au sens littéraire. Ça ne veut pas dire pathétique ou triste, mais ça veut dire qu'il y a de l'action, il se passe quelque chose, ça se développe. Et donc, je commence évidemment par le verbe aimer et puis par admirer, parce que ce sont les deux qui m'intéressent le plus et puis qui commandent probablement les autres.
Alors, j'aimerais vous faire entendre un petit son d'extrait de Candide et vous allez entendre la voix de Jean Topard.
Ah.
Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison. Et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie.
Cosmolonigologie, donc finalement, c'est pas nouveau, Luc Ferry, puisque déjà Voltaire se moquait un petit peu de ses...
Il se moquait de l'optimisme de Leibniz, c'est autre chose. Il se moquait de la théodicée. Si vous êtes croyante, si vous êtes chrétienne en particulier, comment expliquer le mal ? Parce que, ou bien Dieu est tout puissant, et dans ce cas-là, il ne va pas laisser ses enfants jouer avec des lames de rasoir et se détruire entre eux. Donc, ou bien Dieu est tout puissant, alors c'est qu'il est méchant, il laisse faire le mal. Ou bien Dieu, il est gentil, il est bon, mais il n'est pas tout puissant, puisqu'il ne peut pas empêcher le mal. Et donc, Leibniz va écrire un livre très très important dans l'histoire de la philosophie, il s'appelle la Théodicée. En grec, le mot Théodicée, ça veut dire que Dieu est juste. On entend Diké, la justice, la déesse de la justice, et Théos, c'est Dieu. Et donc, il veut montrer que Dieu est juste parce que le mal dans l'univers, et c'est ce que Voltaire va évidemment essayer de tourner en dérision, le mal dans l'univers sert à un plus grand bien. Quand on regarde l'ensemble de l'univers, quand on adopte un point de vue global, alors on s'aperçoit que ce qu'on prend pour le mal quand on a le nez collé sur la vitre, en vérité, ça sert à un plus grand bien. Voilà, par exemple, dit Leibniz, s'il n'y avait que des génies, eh bien, le monde serait moins riche, il y aurait moins de diversité que s'il y a toute la hiérarchie des êtres entre le plus bête et le plus intelligent. La diversité biologique, même chose. La bêtise, pour Leibniz, c'est de croire que les moustiques ou les vipères, par exemple, sont des nuisibles. Pour un vrai écologiste, comme est déjà Leibniz, il n'y a pas de nuisibles dans l'univers. Ce qui nous paraît mauvais, comme la vipère ou comme le moustique ou la guêpe qui nous embête l'été parce qu'elle vient se poser à côté de nous et qu'on a peur d'être piqué, en vérité, d'un point de vue d'un biologiste ou d'un écologiste intelligent, tout ça a son utilité. Donc, ce qu'on prend pour un mal, en vérité, est utile à l'harmonie de l'ensemble. Voilà la thèse de la Laodicée. Et Voltaire s'en moque. D'ailleurs, assez bêtement, il y a toute une correspondance entre Rousseau et Voltaire sur la question de l'optimisme de Leibniz. Et Rousseau est beaucoup plus intelligent que Voltaire, comme toujours d'ailleurs. Et il défend Leibniz contre Voltaire en montrant que si on adopte le point de vue de Leibniz, c'est-à-dire si on se place du point de vue de la totalité de l'univers, alors on verra que l'ordre cosmique est très bien fait et que ce qu'on prend pour un mal, une chose mauvaise, en vérité, est utile à l'ensemble.
Cet extrait a été tiré d'un disque édité chez Frémaux et Associés. Vous, ce qui vous agace, Luc Ferry, c'est cette espèce de bonheur obligatoire. Et vous dites que ça déprime. Vous savez, votre livre me fait penser à un dessin de Wouch. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Ah, je connais très bien Wouch. Enfin, ses dessins, je veux dire. Parce qu'il était justement le dessinateur de l'Express quand j'y étais, oui.
Donc, vous le connaissez, l'homme. Vous l'aimez?
Beaucoup. Il est très drôle et très original, oui.
Alors, je ne sais pas si vous voyez ce dessin. C'est un couple. On sent qu'ils sont amoureux. Ils sont bien. Tout se passe bien. C'est la grâce. C'est harmonieux. Ils sont devant un coucher de soleil extraordinaire, devant un paysage sublime. Ils ont chacun une coupe de champagne. Et il y a l'un qui dit à l'autre, est-ce qu'on pourrait pas être un tout petit peu plus heureux?
Oui, c'est ça. Non, l'idée que j'ai dans le livre, enfin, il y en a plusieurs, mais l'idée de base, c'est que je ne crois pas, c'est pas que ça m'exaspère, c'est que je n'y crois pas, à l'idée que le bonheur ne dépendrait que de notre état intérieur. C'est-à-dire les exercices de sagesse qu'on fait sur soi-même. Au fond, c'est ce que nous vend aujourd'hui la psychologie positive, les théories du développement personnel. Généralement, on y met un petit peu de bouddhisme ou de stoïcisme ou de sagesse ancienne chinoise, si possible, parce que ça fait plus chic. Et donc, on nous vend ça, cette idée que le bonheur ne dépendrait que de notre état intérieur. Je pense exactement l'inverse. C'est-à-dire, je pense que le bonheur dépend, d'abord que le bonheur est une idée stupide, qu'on a des moments de joie, qu'on a des plages de sérénité dans le meilleur des cas, et que de toute façon, ces moments de joie et ces plages de sérénité, qui sont précieuses, ça je ne le nie pas, dépendent essentiellement de l'état du monde extérieur et notamment de l'état de ceux que nous aimons. Je pense que quand on a des enfants, par exemple, j'ai toujours dit ça à mon ami Frédéric Lenoir, ça n'empêche pas l'amitié, on peut être en désaccord et être amis. Quand on a des enfants, on sait très bien que s'ils sont malheureux, s'ils sont très malades, s'ils sont proches de la mort ou même simplement malheureux en amour, par exemple, ce qui peut toujours arriver, eh bien, on peut pas être heureux. On n'est pas bien quand les gens qu'on aime vraiment par-dessus tout sont malheureux.
Si l'un de vos enfants est en train de vivre un chagrin d'amour, vous allez bien entendu être affecté parce que de voir un enfant malheureux, c'est terrible. Mais si vous vous griffez le visage, si vous vous recouvrez la tête de cendres et vous vous dites c'est atroce, vous n'allez aider personne et encore moins votre enfant. Si vous dites mon petit lapin, c'est très fâcheux ce qui t'arrive, mais la vie continue, viens avec moi, je vais t'emmener au théâtre, ça l'aidera plus.
Oui, sauf s'il a un chagrin d'amour et qu'il s'en suicide. Je connais des cas, évidemment, pareils autour de moi.
Vous êtes terrible, vous prenez que des drames dramissimes.
Mais les drames, il y en a toute la journée. Enfin, il faut être complètement cinglé pour pas voir qu'il y a des drames toute la journée, qu'il y a des millions de gens qui meurent chaque jour. Il faut débrancher quand même le déconomètre et accepter l'idée qu'on est des êtres finis, qu'on est mortels. Dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Donc toute la journée autour de nous, surtout quand on arrive à nos âges, cher ami, je suis un peu plus vieux que vous, mais quand même, on a des deuils. Voilà. On sait très bien que un enfant qui monte sur une moto à la sortie d'une boîte de nuit et qui est à l'arrière d'un conducteur qui a trop bu, par exemple, risque sa vie. Ça arrive toute la journée.
Vous êtes complètement flippé, Luc Ferry.
Mais pas du tout, c'est exactement l'inverse. Simplement, je ne suis pas totalement abruti par cette espèce d'impératif absurde de l'euphorie perpétuelle, d'être obligatoirement heureux, alors que, évidemment, nous sommes des mortels.
Il faut
arrêter d'imaginer que nous sommes des êtres immortels, que tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. Ça, c'est le sixième arrondissement de Paris en période de croisière. Mais la réalité, elle est évidemment, il suffit de faire quelques centaines de kilomètres pour se retrouver dans des pays qui sont en guerre. Et donc, encore une fois, seul l'imbécile peut être heureux. L'imbécile heureux est une figure très importante. Moi, ce que je dis simplement, c'est que le bonheur ne dépend pas seulement de notre état intérieur, mais de l'état du monde, à moins d'être totalement narcissique. Et deuxièmement, que nous savons parfaitement définir le malheur, mais que le bonheur est indéfinissable.
Vous êtes intelligent.
J'en sais rien.
Ah. Et vous êtes heureux ?
Ça n'a pas de sens. On a des moments de joie, on a des moments de sérénité dans la vie. Il faut les cultiver, il faut les préserver, il faut les chérir, il faut les provoquer si on peut. Mais nous n'avons que des moments de joie. Toute plage de sérénité et tout bonheur est absolument éphémère. C'est ça qui en fait le prix. Et donc cette idée qu'on parviendrait en ouvrant les chakras, en souriant trois fois par jour et en prenant son corps comme un violon, qu'on arriverait au bonheur comme on arrive à un état stable après une traversée difficile en mer, est une idée mensongère, illusoire, dangereuse et, j'allais dire, pathologique, pathogène. Ça nous rend malades, ça rend les gens malades. Donc non, il faut très clairement dire à ceux qui nous écoutent, oui, qu'il y a des activités qui nous rendent heureux. J'ai essayé de les décrire dans ce livre, admirer, aimer, tout cela nous rend heureux. Mais je vais vous dire, tout ce qui nous rend heureux peut nous rendre malheureux. Rien ne nous rend plus heureux que d'être amoureux. Quand on est amoureux, on y pense dans le bain, sous la douche, dans le métro, dans le train, dans l'avion,
ça
au bureau.
Qu'on se lave, c'est déjà
ça nous enchante le monde, mais quand vous perdez l'être aimé, et je vous garantis que vous le perdrez de toute façon un jour ou l'autre, eh bien, évidemment, c'est la souffrance la plus grande qui soit. Et là, ça ne dépend pas de vous, ça dépend du monde extérieur et de l'état de ceux que vous aimez.
Oh ben, j'ai bien fait de vous inviter un dimanche soir, ça égaye tout de suite la soirée.
Ben, c'est pas une question de gaieté, c'est une question de lucidité. Moi, ce qui me désangoisse, c'est la lucidité, c'est pas la connerie.
Cocoon, get well soon dans État d'esprit.
It's been a tough year for everybody. It's been a tough year for my family. It's been a tough year for everybody. It's been a tough year. Mama's gone around the bend. She hears voices in her head. She takes. She can't recognize my face. May she get well soon. May she get well soon. Trying to break this spell. May we get well soon. May we get well soon. I'm trying to break this spell. May we get well. It's been a tough year for everybody. It's been.
I'm not afraid to die.
France Inter. Noël Bréham. État d'esprit.
Avec vous ce soir, Luc Ferry, et votre dernier livre, « Cette façon d'être heureux », édité chez Ixo. Alors, vous dites que finalement, on nous dit beaucoup en ce moment qu'il faut être soi, que être soi, ça n'existe pas.
Non.
Et vous citez Pic de la Mirandole. J'adore ce nom. C'est pas possible, c'est un pseudo.
Oui. Il n'y a pas que le nom. Hein. Il écrit un petit livre formidable, un petit discours plutôt, ouais. Mais je vous écoute.
Je vous cite, vous écrivez que Pic de la Mirandole dit que nous n'avons pas à nous trouver, mais nous avons à décider qui nous sommes.
Alors, c'est mieux que ça même encore. Enfin,
c'est
bien
ça,
mais c'est encore plus fort que ça. En fait, Pic de la Mirandole reprend un mythe qui est le mythe de Prométhée, qu'on trouve dans un dialogue de Platon. Et dans ce mythe de Prométhée, je vous le fais très court, mais il est absolument génial.
Si, racontez-nous.
Il est grandiose.
J'aime bien que vous racontez les mythes sur une radio. Je ne citerai pas parce que c'est la concurrence, mais j'adore.
Oh, c'est Radio Classique, on peut le dire, ils ne sont pas méchants. Et alors, le mythe de Prométhée, en gros, l'idée est la suivante, c'est que quand Zeus a gagné la guerre contre les titans, c'est-à-dire les forces du chaos, les forces de destruction, ces premiers dieux qui sont très violents, il a partagé le monde est devenu totalement paisible, c'est le fameux calme olympien, vous vous souvenez de ça, on parlait toujours du calme olympien, c'est quand la guerre contre les titans, gagnée par les olympiens, est enfin terminée et que le calme règne. Alors, les dieux commencent à s'ennuyer. Et Zeus a une idée pour se désennuyer du temps, c'est de faire fabriquer par un fils de titan, par Prométhée. Prométhée en grec, ça veut dire celui qui pense en avant, qui est très intelligent. Le faire fabriquer les mortels. Parce que si on fabrique les mortels, les animaux et les humains, la vie va revenir dans l'ordre cosmique. Là, il n'y a plus de vie, il ne se passe plus rien, tout est paisible, la paix, c'est ennuyeux. Et ben, si on fabrique les mortels, il y aura
La
vie du mouvement, et puis des mortels à aimer. Comme vous savez, Zeus aime beaucoup les femmes mortelles. Il les préfère aux déesses, parce qu'elles ont plus de charme, parce que leur beauté peut se faner. Il y a là toute une réflexion sur le temps qui est très belle. Mais bref, Prométhée a un frère qui s'appelle Épiméthée. Épiméthée, c'est l'idiot de la famille. En grec, ça veut dire celui qui pense après coup. Et l'idiot de la famille demande à son frère, il demande à Prométhée de le laisser s'exercer sur les animaux. Prométhée est très embêté, mais finit par céder. Et le petit Épiméthée fabrique les animaux. Et qu'est-ce qu'il fait pour fabriquer les animaux? Il va fabriquer des petites statuettes qui sont comme les archétypes de chaque espèce. Une petite statuette d'ours, de chat, de lapin, etc., de tortue. Et puis, deuxième chose, il va assigner une place à chacun des animaux. Les poissons seront dans l'eau, les oiseaux dans le ciel, les mammifères sur la terre, etc. Donc, un archétype, un modèle, ensuite une place, et ensuite il va donner à chaque espèce animale des dons particuliers. Les poissons auront des nageoires, les oiseaux des ailes, la tortue aura une carapace, les ours une fourrure, etc. Et puis, Prométhée vient examiner le travail de son frère et il s'aperçoit qu'il ne reste plus rien pour l'être humain. Tout a été donné aux animaux. Et vous allez voir le rapport avec le bonheur, évidemment, j'ai pas perdu le fil.
Non.
Le petit homme, il naît tout nu. Il a pas de fourrure, il a pas de carapace, il a pas de griffes, il court pas très vite, il sait pas nager, il sait pas voler, il sait rien faire, il reste à la maison jusqu'à 25 ans sans pouvoir vivre tout seul aujourd'hui. Et donc, en tout cas, jusqu'à 10 ans, il peut pas vivre tout seul, sans ses parents. Là où, je sais pas, la petite tortue, par exemple, petite tortue marine, dès qu'elle sort de l'œuf, elles savent tout faire. Marcher, nager, manger, elles ont pas besoin d'éducation, pas besoin des parents, elles sont guidées par la nature. Alors, l'idée, c'est que c'est justement parce que l'homme n'est rien, il n'a pas de place dans le monde, il n'a pas d'archétype, il n'est pas programmé comme les abeilles à fabriquer du miel ou les chats à courir après les souris. Il n'a aucun programme, il n'a aucun logiciel qui le détermine, il n'a aucun don qui le programme à faire ceci ou plutôt que cela. Et donc, il va être obligé d'inventer sa vie. Et voyez le rapport avec la question du bonheur. Ce que disent aujourd'hui les philosophes du bonheur ou les psychologues du bonheur, psychologie positive, ils disent au fond ceci. Si vous identifiez, par exemple, par une psychanalyse, vous identifiez vraiment votre nature profonde...
Attention, Luc Ferry va charger.
Alors, non, vous allez pouvoir remplir, en quelque sorte, cette nature comme on remplit un verre vide. Vous allez pouvoir la satisfaire. Identifiez d'abord qui vous êtes, votre nature profonde. Après, vous pourrez être heureux parce que vous pouvez satisfaire ce que vous êtes vraiment. Vous comprenez le rapport?
Très bien.
Et donc, en vérité, du point de vue de Prométhée, du point de vue de Pic de la Mirandole, de Kant, de Husserl, de Heidegger, de Sartre surtout, qui reprendront cette idée, eh bien, l'être humain n'est rien. C'est le titre de Sartre. L'être est le néant. L'être humain est néant. Les animaux sont ce qu'ils sont. Les abeilles sont programmées à fabriquer du miel. Elles ne peuvent pas faire autre chose. Alors que les humains sont néants. Et donc, du coup, l'idée qu'on va pouvoir être heureux parce qu'on a identifié sa nature est une idée absurde du point de vue, évidemment, de cette philosophie de la liberté. Il n'y a pas de nature féminine qui obligerait les femmes à avoir des enfants, à être à la cuisine et à l'église, comme disaient les protestants allemands. La femme est un homme comme les autres, comme dira Elisabeth Badinter. Elle a tout à fait raison. Et réciproquement, j'ajouterais. Et donc, il n'y a pas de nature humaine, comme dira Sartre. Et donc, on ne peut pas accéder au bonheur en disant simplement on va remplir cette nature humaine comme on remplit un vase vide. Voilà une des raisons pour lesquelles je ne crois pas non plus à l'idée de bonheur.
Alors là, vous avez parlé de la vie, hein, oui. Luc Ferry. Il y a quand même une donnée qui est drôlement importante dans ce bonheur, auquel on croit ou pas, qu'on éprouve plutôt, c'est pas tellement d'y croire, l'important
moment
c'est...
Moment de joie, dites plutôt.
Moment de joie. Il y a la mort. C'est-à-dire que, comme disait Aragon, il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Il y a ceux qui croient à la vie après la mort. Ah oui, ça c'est vrai.
Ah
zut.
Ah oui, Aragon, vous me l'avez tendu.
Ah oui, alors là, je reprends cette perche immédiatement.
Non, c'est très bien au contraire.
Alors je vais prendre La Rochefoucauld, parce que vous le citez dans votre livre. La Rochefoucauld disait que la mort c'était comme le soleil, on ne peut pas la voir en face. Oui, et puis les bouddhistes disent qu'il faut y penser tout le temps pour se préparer.
Oui, les bouddhistes disent ça, en effet.
Alors
Quelqu'un que j'aime beaucoup, Mathieu Ricard, par exemple, mais le Dalai Lama lui-même. C'est très intéressant, d'ailleurs, conseil de penser sa vie au futur antérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, si je traduis en clair?
Moi, je ne sais pas conjuguer le futur antérieur.
Oh, ben, je vais vous dire ça gratuitement.
Merci.
Quand la catastrophe aura eu lieu, voilà le futur antérieur, je m'y serai préparé.
D'accord.
Donc, il vaut mieux se préparer, comme disent les bouddhistes, à voyager léger, c'est-à-dire à se débarrasser des possessions, des avoirs. Il faut préférer l'être à l'avoir, comme ils disent, pour voyager léger, de telle sorte que quand la mort arrivera, vous vous y serez préparé. C'est la doctrine du non-attachement. Ne vous attachez à rien, ni aux choses, ni aux êtres. Si vous vous attachez à votre fille, il se trouve que ça ne se voit pas à la radio, mais ma fille est dans le studio, si vous vous attachez à vos enfants...
Fille.
C'est
jeune
ma fille quand même, jeune, oui, encore, bien sûr, heureusement, pour elle. Mais si vous vous attachez aux choses, ou si vous vous attachez aux êtres que vous aimez, alors vous êtes fou, vous n'êtes pas sage, vous vous préparez les pires souffrances qui soient, parce que la vie, elle est impermanence, comme disent les bouddhistes. Tout coule, tout passe, pantarei, en grec, tout passe, tout... Et donc, s'attacher, c'est se préparer des souffrances. Bon, là aussi, je n'y crois pas du tout.
Eh bien, nous écouterons, si vous voulez bien, Luc Ferry maturé, car il était assis sur cette chaise avant vous il y a quelques jours. Nous allons entendre une chanson qui s'appelle « La vie, c'est bon ».
Il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre.
Cela dit, le groupe s'appelle Vaudou, et puis après, nous réécouterons quelques paroles de Mathieu Ricard.
La vie, c'est bon, 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 mais pas trop.
Sûr, on peut devenir des psychopathes et commettre des génocides, mais au moins le fond nous prédispose davantage à la bonté. C'est déjà un bon point de départ, parce que si on n'avait pas ce potentiel, ça ne serait à rien d'essayer d'amener ce potentiel pour la bonté à son point optimal, parce que ça serait un combat perdu d'avance. Mais comme nous avons ce potentiel, on peut l'aider à fleurir et à s'épanouir. Il suffit de la faire sortir, de la faire briller, de le polir, mais il a toujours été là.
Ouais, mais enfin, Mathieu Ricard, vous dites, il faut bosser un peu.
Ah ben, vous savez, les soirs, devenir heureux en 3 semaines et 5 leçons, plus altruiste, ça marche pas. C'est la pratique. Ouais. Mais pourquoi pas, on passe 15 ans à aller à l'école, apprendre à lire, à écrire, à jouer aux échecs, à avoir une formation professionnelle, pourquoi pas. La méditation, c'est un entraînement de l'esprit, devenir un meilleur être humain. Je veux dire, ça en vaut la peine.
Oui.
Ça vaut la peine d'apprendre à jouer du piano, mais enfin, si vous n'en jouez pas, ce n'est pas un drame total dans l'existence, parce que si vous ne développez pas les potentiels de bonté, de présence attentive, de liberté intérieure, de joie intérieure que vous avez, ben, c'est dommage pour votre existence et celle des autres.
France Inter, état d'esprit.
Mathieu Ricard, Luc Ferry, dont vous parliez il y a un instant, qui dit quand même que l'homme, au fond, est bon, même s'il peut commettre des erreurs et des horreurs.
Écoutez, d'abord,
J'aime
beaucoup Mathieu Ricard et j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour lui. Je trouve qu'il a écrit un très grand livre sur les animaux, dont d'ailleurs j'ai fait un peu la promotion dans le compte-rendu dans le Figaro.
Et
c'est quelqu'un que j'aime bien. Oui, parce que peut-être on y reviendra aux animaux. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Je pense qu'on les traite vraiment mal aujourd'hui. Et là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. En plus, j'ai grande admiration pour lui parce que, au fond, il vit ses idées. C'est-à-dire qu'il est moine et donc, en effet, d'une certaine manière, sa sérénité ne dépend que de lui-même. Il n'est pas dans la vie de famille, par exemple. Cela dit, désaccord avec lui très très grand sur la question l'homme est bon ou est-ce qu'il est mauvais. Il est ni bon ni mauvais. Il est libre. Et donc, ce qu'on lit dans l'œil humain, c'est la possibilité de l'amour, de la générosité, de la gentillesse la plus grande, comme la possibilité de la haine et de l'horreur la plus grande. Dire que ce sont des psychopathes qui ont commis des erreurs, les nazis n'étaient pas psychopathes. 90% du peuple allemand a voté pour Hitler. Ils n'étaient pas tous en hôpital psychiatrique. Si l'humain était bon...
Non, mais les meneurs...
Était bon, ça saurait. Je veux dire, regardez le XXe siècle. 120 millions de morts dans le communisme, 70 millions rien qu'en Chine, 60 millions de morts, Deuxième Guerre mondiale.
Mais vous ne parlez que des horreurs, Luc Ferry.
Mais
vous ne parlez
que ça, ma pauvre amie. Mais qu'est-ce que vous voyez d'autre? Vous fermez les yeux ou quoi? Non, mais attendez, il faut sortir du 6e arrondissement de Paris. Je veux dire, il y a un moment où il faut regarder le monde tel qu'il est. Le 20e siècle, c'est quoi? Première Guerre mondiale, 19 millions de morts. Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts. Communisme, 120 millions de morts. Et aujourd'hui, vous croyez que ça va bien? Mais allez donc voir en Syrie, en Bosnie, il n'y a pas si longtemps, à Srebrenica, etc. Regardez ce qui s'est passé, la guerre en Algérie, 500 000 morts. La deuxième guerre d'Algérie avec le fils, encore 200 000 morts. La guerre en Irak, c'est des centaines de milliers de morts, de civils qui sont morts. Il faut arrêter de fermer les yeux.
Non, mais donc, enfin, vous n'avez tué personne jusqu'à aujourd'hui.
D'abord, vous n'en savez rien.
Je suppose.
Ça peut venir. Et ensuite, je sens cette capacité en tout être humain, le moindre accrochage en voiture et les gens s'énervent et sortent un couteau, que sais-je. Bon. Et donc, encore une fois, dans l'œil humain, vous ne lisez ni la bonté ni la méchanceté, vous lisez la possibilité. Fichte disait, un philosophe, un héritier de Kant et de Rousseau, la différence entre l'œil humain et l'œil de la langouste est très intéressante. L'œil de la langouste, c'est un miroir, vous n'y voyez rien. L'œil d'un oiseau, vous ne voyez rien dedans. Dans votre œil, je vous regarde en ce moment, je vois la possibilité de la gentillesse, de l'inquiétude, de la peur, de l'amour. Tout ça, je peux le lire. Mais si vous vous mettez en colère, je vois la possibilité de la haine dans les yeux des enfants. Vous savez ce que les Américains appellent les terrible twos, les deux ans terrifiants. Si les yeux des enfants étaient des mitraillettes, l'humanité aurait disparu depuis longtemps. L'être humain n'est ni bon ni mauvais, il est libre. Et c'est-à-dire qu'il a la possibilité du mal comme la possibilité du bien. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois absolument pas à l'idée de bonheur. Je crois encore une fois à la joie et à la sérénité, mais pas au bonheur. À des plages de joie et des plages de sérénité.
Des moments, vous croyez à des moments.
Je crois au bonheur de mon chat. J'adore les chats. D'ailleurs, là, je rejoins Mathieu Ricard sur les animaux. Et je sais exactement comment rendre mon petit chat heureux. Je sais quelle graine il lui faut. Je sais exactement qu'elle aime... C'est une chatte. Elle aime le ton de l'Atlantique, spécialement. Je sais comment il faut jouer avec elle. Je sais qu'en gros, il faut la laisser dormir 20 heures par jour. Et je sais comment faire. Avec mes filles, c'est très différent. Ça change tout le temps. Il n'y a pas de nature humaine. Du coup, il y a une historicité permanente. Mes filles n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes difficultés non plus à 4 ans, à 10 ans, à 15
mais
ans.
Mais vous êtes capable de vous adapter. Vous avez l'air d'être un homme brillant, Luc Ferry.
Non,
vous pouvez vous adapter à leur évolution.
On peut pas s'adapter au mouvement perpétuel.
Bien
on peut
que si.
Non, on peut essayer de le comprendre, on peut essayer de le suivre, mais on peut pas remplir en quelque sorte une nature qui serait celle d'une de mes filles, comme je remplis la nature qui est celle de mon petit chat. Je sais exactement ce qu'il lui faut et ça marche très bien. Mes filles, ça change tout le temps. C'est contradictoire en plus.
Mais
nous sommes bourrés de contradictions.
C'est d'adaptation en permanence.
Toute éducation est ratée, cher ami. Même la plus réussie du monde est ratée.
C'est effrayant.
Et d'ailleurs, mais c'est pas ça, rien d'effrayant. C'est juste la lucidité, c'est la réalité. Même l'éducation la plus réussie, c'est-à-dire, en gros, l'éducation, c'est quoi pour nous? C'est l'amour, la loi et les grandes œuvres. C'est chrétien, juif et grec pour nous, les occidentaux. L'amour, sans l'amour, les enfants n'ont pas ce que Cyrulnik appelle de manière tout à fait juste la capacité de résilience. Plus on a aimé un enfant, plus il peut rebondir face aux difficultés de la vie.
Plus on lui a pardonné, plus il pardonnera, plus on l'a aimé.
Exactement.
Plus il
aimera. Si vous l'avez violé gravement, il y a des chances ou des risques plutôt pour qu'il devienne lui-même un violeur, etc. Il y a la loi, c'est Moïse. Si vous ne transmettez pas la loi à vos enfants, vous les rendez fous. Et puis il y a les grandes œuvres. Pour nous, c'est les Grecs qui inventent les grands genres littéraires. Mais même avec ça, sachez que cette fluidité de l'humain fait que cette adaptation à cette fluidité est toujours plus ou moins prise en défaut. C'est jamais parfait.
Est-ce que vous êtes toujours sûr de ce que vous dites ou il vous arrive de douter, Luc Ferry?
Ah là 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 là, encore les questions. Est-ce qu'il est dogmatique ou pas?
Non, parce que quand on vous entend parler, vous avez l'air vraiment tellement sûr de vous.
Non,
dans
c'est
tout.
Pas ça. Mais il faut parfois savoir débrancher le déconomètre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ces promesses fallacieuses... J'aime beaucoup le livre de mon ami Pascal Bruckner, je ne suis pas tout seul, ça s'appelait L'euphorie perpétuelle. Cette injonction d'être en perpétuel heureux. Hein, vous rencontrez quelqu'un et vous lui demandez si ça va. Ah oui, moi ça va, c'est formidable. J'ai une femme merveilleuse, des enfants adorables, un métier de rêve, tout baigne, c'est formidable. Et puis en fait, c'est évidemment pas vrai. Parce qu'on a tous des vies qui sont extrêmement fragiles. Tous les moments de joie sont éphémères. Et encore une fois, moi, ce qui me désangoisse dans la vie, là-dessus, je suis très très freudien, très proche de Nietzsche et de Freud, c'est la lucidité, c'est pas les carabistouilles. Les carabistouilles, ça me rend malade. Et oui, là-dessus...
C'est vrai que l'injonction...
Je suis assez sûr de moi, oui.
Du bonheur, c'est vrai que c'est bonheur. Terrifiant.
Ah, c'est effrayant, cette euphorie. Et vous savez à quoi c'est lié?
Le bonheur obligatoire.
Non, mais c'est lié à quelque chose de très profond. C'est pour ça que c'est pas anecdotique. Toute cette prolifération de psychologie positive, de conseils, vraiment, de mignardises. Surtout, ne visez pas l'excellence, soyez indulgent avec vous-même, etc. En fait,
et
c'est gentil.
Vous n'aimeriez pas qu'on mette tous les philosophes dans le même panier? Ne mettez pas tous les...
Ah, bah si, la psychologie positive,
tous les
psys c'est
dans le même
courant.
Panier.
J'ai pas dit tous les psys, je dis la psychologie positive. C'est pas Freud. Freud, il pense exactement l'inverse.
Enfin, c'est comme les boulangers. Il y a des bons et des mauvais. Hein.
Non. Il y a des courants de pensée qui sont identifiables. Si vous êtes spinoziste, vous êtes spinoziste. Si vous êtes un libéral ou un communiste, vous êtes un libéral ou un communiste. Bon, tous les humains ne sont pas identiques, mais les courants de pensée ont quand même une certaine cohérence, heureusement d'ailleurs. Et donc, dans la psychologie positive,
classement.
On vous donne un certain nombre de conseils du type ne visez pas l'excellence, ne soyez pas trop dur avec vous-même, endormez-vous sur des images positives, faites 3 ou 4 bonnes actions par jour, apprenez à aimer votre corps, fait transformez-le en violon pour savoir en jouer, etc. Bon, soyons clairs, voilà, ça me fait hurler de rire.
Ah, la mauvaise
parce
foi.
Que, mais non, c'est exactement ça. Mais allez voir vous-même,
vous prenez
allez,
trucs
allez voir sur Internet. Mais que, ne me croyez jamais. Voilà, vous me demandez si je doutais. Ne me croyez jamais. Allez voir vous-même sur Internet les conseils des psychologues positifs.
Non, bon. Mais Internet, donc, c'est la lie.
Mais lisez leurs livres. Mais si vous avez du temps à perdre, lisez leurs livres. Je suis très pour la lecture, comme vous savez. Mais vous verrez que ces conseils-là, franchement, c'est lié au fait que comme il n'y a plus de grandes idéologies, il n'y a plus que le nombril. Le narcissisme de la psychologie positive, mais effrayant. Voilà. Alors, on se regarde le nombril, on dit « sois pas trop exigeant, mais attends, il n'y a pas de danger, voilà. Aimez-vous vous-même ». Bah oui, je préférais qu'ils aiment les autres. Bon, et donc qu'on soit un peu plus exigeant avec soi-même, tout ça. Ne visez pas l'excellence. Mais si, visez l'excellence, vous n'y arriverez pas, mais il vaut mieux la viser plutôt que de viser la médiocrité. Voilà, je suis très républicain pour l'école à cet égard.
Luc Ferry, vous venez d'écrire « Cette façon d'être heureux chez Ixo ». J'aimerais bien qu'on parle dans un instant de Spinoza et de la liberté, juste après Alain Bachung, résident de la République.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, les atomes, fais ce que tu veux. Un jour je te parlerai moi, peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Je voguerai moins, peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, chérie des atomes, fais ce que tu veux. Je sais pas, je sais pas.
État d'esprit sur France Inter.
Luc Ferry, dans les 7 façons d'être heureux, vous donnez donc plusieurs mots, et dans ces mots qui peuvent amener le bonheur, ou au contraire d'ailleurs l'empêcher
la
d'arriver.
Joie.
Oui, la joie. La joie, les moments de joie même.
Les moments de joie, voilà, c'est éphémère et fragile, oui.
Vous parlez de Spinoza et de la liberté.
Oui.
C'est pas rien la liberté. Et alors finalement, cette liberté, est-ce qu'elle provoque le bonheur ou est-ce qu'elle provoque le remords des erreurs?
Non, ce que pense Spinoza, c'est la liberté entendue au sens du libre arbitre, c'est-à-dire au sens où on l'entend justement dans le mythe de Prométhée que nous évoquions tout à l'heure, c'est la possibilité de choisir entre le bien et le mal, c'est-à-dire aussi la responsabilité.
De se tromper.
Est responsable de ses actes. On peut se tromper, donc du coup, on peut avoir ce que Spinoza appelle des passions tristes.
J'adore.
Quand on croit à la liberté, c'est les remords, les regrets, les hontes qui vous réveillent la nuit. À 3 heures du matin, on se dit, mais mon Dieu, pourquoi j'ai dit ci, pourquoi j'ai dit ça? Et on se raconte un petit rêve éveillé pour revenir en arrière, essayer de corriger les choses.
Si on n'était pas libre, si on n'avait pas le droit de parler, on ferait pas de gaffe.
Si on n'avait pas la liberté, en tout cas le sentiment pour Spinoza, c'est une illusion totale, c'est ce qu'il appelle le délire. Mais si nous n'avions pas cette illusion ou cette réalité de la liberté, du libre arbitre, nous n'aurions ni remords, ni regrets.
C'est sûr.
Parce que, pour avoir des remords, il faut penser qu'on aurait pu faire autrement que ce qu'on a fait, donc qu'on était libre. C'est ça l'idée de liberté. Et donc, elle est à l'origine, selon Spinoza, des passions tristes. Spinoza, les bouddhistes et les stoïciens partagent une conviction, c'est que nous ne sommes pas libres, que nous sommes déterminés, qu'il n'y a pas de libre arbitre et que du coup...
Conditionné par quoi, par qui?
Le karma, le déterminisme. Chez Spinoza, c'est le déterminisme des causes, le principe de causalité, le principe de raison. Et donc l'idée, c'est que la vraie sagesse, ça consiste à, c'est ce que Nietzsche appellera l'amor fati, ça consiste à habiter le présent, c'est le fameux carpe diem d'Horace. C'est à l'idée que deux passions tristes pèsent sur nous, la nostalgie et l'espérance, et que le sage est celui qui parvient à se débarrasser de la nostalgie et de l'espérance pour habiter le présent. Comme dit mon ami André Comte-Sponville, c'est une phrase tout à fait spinoziste et stoïcienne, le sage est celui qui parvient à espérer un peu moins, à regretter un peu moins, à aimer un peu plus, et à habiter le présent. Parce que, comme dit Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte. Vous espérez la santé, c'est que vous êtes malade. Et vous savez pas trop si ça va revenir. Vous espérez la richesse, c'est que vous êtes pauvre. Donc pour Spinoza, comme pour les Grecs, enfin pour les stoïciens en tout cas, l'espérance, c'est la pire des choses, contrairement aux chrétiens, puisque espérer quelque chose, encore une fois, c'est ne pas l'avoir.
Et
oui.
Évidemment.
Et en plus, on craint de ne pas l'avoir. Donc, comme dit Spinoza, encore une fois, pas d'espoir sans crainte. C'est l'archétype des passions tristes, l'espérance, contrairement à ce que disent les chrétiens. Vous savez, il y a une belle encyclique de Jean-Paul II qui est justement entrée dans l'espérance. Donc, très anti-Spinoza, très anti-stoïcien, si je peux dire.
Nietzsche a dit, on vit trop dans le passé et trop dans le
même
futur.
Même chose, amor fati, exactement.
Dans le présent.
C'est ce que Nietzsche appelait l'amor fati. D'ailleurs, c'est le fin mot de ma philosophie, c'est amor fati, c'est-à-dire l'amour du fatum, de ce qui est là, habiter le présent. Et c'est ce que vous trouvez à la fin, d'ailleurs, de l'Odyssée d'Homère. Donc, il y a un moment très, très beau à la fin de l'Odyssée d'Homère, quand Ulysse retrouve enfin Pénélope, et vous vous souvenez, elle lui tend un piège, elle lui dit, Ulysse, va chercher
le lit
nuptial.
Le pied de lit.
Voilà, et Ulysse lui dit, mais tu sais bien, Pénélope, je ne peux pas aller chercher le lit nuptial, je l'avais taillé dans un tronc d'olivier, et nous avions construit la chambre à coucher autour de ce tronc d'olivier, donc je ne peux pas déplacer ce lit. Et là, Pénélope le reconnaît, et souvenez-vous, les dieux distendent le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois depuis 20 ans, il a eu 10 ans de guerre et 10 ans de voyage affreux, Ulysse, enfin, n'est plus dans la nostalgie d'Ithaque et de Pénélope, il n'est plus dans l'espérance d'Ithaque et de Pénélope, il est dans l'amour d'Ithaque et de Pénélope. Il est dans son lit avec elle. Et donc, les dieux distendent le temps parce que ce moment-là n'est plus relativisé par le passé ou par le futur. Donc, c'est un instant, Nietzsche dira, c'est un grain d'éternité. C'est un fragment d'éternité. Quand l'instant présent n'est plus relativisé par le passé ou par le futur, il confine à l'éternité. Voilà. Et ça, évidemment, moi, je suis d'accord avec ça, mais c'est des moments de joie. C'est pas le bonheur.
C'est drôle que vous citiez Luc Ferry, l'instant présent, parce que tous ces écrits qui vous énervent tellement parlent beaucoup de l'instant présent. Eckhart Tolle ne parle que de ça, la magie de l'instant présent.
Justement, dans ce cas-là, acceptons l'idée que ça n'est qu'un moment éphémère et fragile. Et d'ailleurs, Ulysse le sait très bien, puisqu'il va repartir avec sa rame sur le dos jusqu'à ce qu'il atteigne une région si éloignée de la mer que les paysans confondront la rame avec une pelle. Donc disons que ce sont des instants présents, ce sont des moments de grâce. Moi, j'appelle ça, au fond, moi aussi je connais ça, et c'est vrai que ce sont des moments qui sont extrêmement plaisant, c'est des moments gracieux, oui. Ça peut être quand vous êtes sur votre terrasse l'été et que vous avez bu les deux petits verres de rosé ou de Ricard qu'il faut pour que ce soit juste un peu flottant et agréable, que les enfants sont couchés, que pour une fois vous êtes amoureux et ça marche, vous prenez pas un râteau et que tout ça est serein. Voilà, c'est la sérénité. Mais ça ne dure pas, cher ami. Ne faites pas croire aux gens que cet état intérieur, qui est absolument éphémère et fragile, serait le modèle d'un état stable qui s'appellerait le bonheur, auquel on arriverait encore une fois.
Un inquiet, j'ai trouvé. Vous êtes un inquiet, vous êtes un flippé, vous êtes un inquiet.
Mais pas du tout, pas un millième de seconde. Ah non, ça vous, je suis désolé de vous le dire, mais vous cernez pas du tout le personnage qu'il y a en face de vous. Je suis à la fois, comment dire, aussi heureux qu'on puisse l'être. J'ai pas d'inquiétude particulière. Tout va bien. J'ai des filles adorables. Mon petit chat va très bien. Ma femme est magnifique. Charmant. J'ai le métier le plus beau du monde, qui est le métier d'écrivain et de conférencier. Tout ça est formidable. Non, c'est pas ça. C'est simplement une conscience lucide que vraiment Freud et Nietzsche, là, sont mes, pour le coup, mes figures tutélaires. Une conscience lucide de la fragilité absolue de l'existence humaine. Et du coup, justement, c'est ça qui rend ces moments de grâce ou ces moments de joie extrêmement précieux. Mais ne nous racontons pas des carabistouilles, ne nous racontons pas que ce sont des états stables.
Luc Ferry.
D'esprit sur France Inter.
Luc Ferry, ce soir pour les 7 façons d'être heureux ou les paradoxes du bonheur, édité chez Ixo. Le bonheur, vous n'y croyez pas, vous croyez au moment de joie, voilà. Luc Ferry, de la sérénité passagère. Vous développez dans votre livre des mots qui peuvent apporter le bonheur ou au contraire le repousser. Et dans ce qui repousse, vous ne l'appelez pas comme ça, mais moi c'est comme ça que je l'ai compris, peut-être oui. Me suis-je trompée. Le vide existentiel, quoi. C'est jamais suffisant. Ce qu'on a, ce qu'on obtient, un joli travail, une jolie famille, une jolie maison, et puis
C'est pour c'est ça que je pense assez. Que là, vous avez tout à fait raison. Cette course à la consommation ne me va pas non plus. Là-dessus, je rejoins pour le coup mon ami Frédéric Lenoir ou Mathieu Ricard. Ça ne me va pas, mais c'est, comment dire, pour cette raison que je pense que la question du sens, c'est ce que j'appelle la vie bonne pour les mortels. Vie bonne pour les mortels? C'est la question de toutes les grandes philosophies, depuis Homère jusqu'à Heidegger. Qu'est-ce qu'une vie bonne pour les mortels? Cette question, elle est beaucoup plus liée, à mon avis, à la problématique du sens qu'à la problématique du bonheur. Un jour que nous avions un entretien tous les deux avec Boris Cyrulnik, que j'aime beaucoup, c'est aussi quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, d'amitié et d'admiration d'ailleurs. Cyrulnik m'a raconté une anecdote, je crois qu'il l'a trouvée quelque part chez Peggy. C'est l'histoire d'un automobiliste, peu importe que ce soit dans une voiture moderne ou une diligence, on s'en fiche. Il traverse un chantier et il voit un ouvrier qui a une masse à la main, qui casse des cailloux, qui a le visage déformé par la souffrance. Il s'arrête, il lui demande « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et l'ouvrier lui dit « Oh, j'ai un métier de chien, je suis dehors toute la journée, qu'il pleuve, qu'il vente et je casse des cailloux, c'est horrible. » Et puis l'automobiliste repart, il croise un deuxième chantier, l'équivalent, même masse, même métier. L'autre a l'air plutôt calme, assez serein. L'automobiliste lui demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Et l'autre lui répond « Je casse des cailloux, mais bon, ça me permet de faire vivre ma famille, ça me rend bien service. Oui, c'est difficile, mais quand même, je suis très heureux de faire ça parce que ça me permet de faire vivre les gens que j'aime. » Et puis, il croise un troisième chantier. On voit le même ouvrier, la même masse, les mêmes cailloux. Le type a l'air absolument aux anges. Et l'automobiliste lui demande « Qu'est-ce que vous faites ?» Et le gars répond « Je construis une cathédrale. Ah. Et donc là, il a la tête dans le ciel, peu importe qu'on soit croyant ou pas.
Charles Péguy, c'est
la métaphore. Voilà. La métaphore est très claire. La même activité, selon que vous lui donnez du sens ou pas, elle vous rend joyeux ou serein, elle vous apporte quelque chose, elle enrichit votre vie, ou au contraire, si vous ne lui accordez aucun sens. Moi, je vois ça très souvent avec les restaurateurs, par exemple. Ouais. J'aime beaucoup ça, parce que le métier de restaurateur, c'est de serveur, est très dur. Et vous avez des gens qui ont profité pour tisser des relations humaines, qui sont drôles, qui vous font des blagues, qui sont gentils avec vous, qui vous accueillent. Et du coup, on se sent tout de suite heureux, on parle avec eux. Et ils ont transformé un métier qui est très dur en un métier qui a du sens, parce qu'il y a des relations humaines. Même chose avec un chauffeur de taxi, par exemple.
Tout, absolument tout.
Partout. Ouais. Et donc, le même métier peut être infernal ou peut être joyeux, selon que vous lui donnez du sens ou pas. Pour moi, la question du sens est beaucoup plus importante que la question du bonheur.
Vous n'êtes pas en train de me dire, Luc Ferry, comme tous ces imbéciles et ces crétins du développement personnel, que la façon dont on vit la vie serait la façon dont soi-même on perçoit la vie.
Non, c'est pas ça.
Ah,
c'est la question du sens.
J'ai eu peur.
Ayez peur, en effet. Non, c'est la question du sens. Et je pense que dans l'histoire de la pensée humaine, il y a au fond 4 ou 5 très grandes réponses. Il n'y en a pas 50, il n'y en a que 4 ou 5. Pour Ulysse, ça sera la matrice de la philosophie grecque. La vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec l'harmonie cosmique. C'est ça que fait Ulysse quand il rejoint Ithaque. Pour un croyant, chrétien ou non d'ailleurs, la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec les commandements divins. Pour un humaniste des Lumières, un Voltaire qu'on citait tout à l'heure, la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec le reste de l'humanité. Hein. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. Ça a l'air tout bête, mais c'est très profond. Pour un Nietzschéen ou un Freudien, la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec soi-même. Le but de l'analyse, c'est de se réconcilier avec soi, de dépasser le conflit psychique entre le ça et le surmoi. Hein, je vais vite. Pour Marx, même chose, la désaliénation. Et puis, je pense que, pour moi en tout cas, et c'est tout le thème de mes livres aujourd'hui, depuis de livre en livre, je développe cette idée, la vie bonne, c'est la mise en harmonie de soi avec ceux que nous aimons. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus compliqué.
Ça fait moins de monde que toute l'humanité.
Si, c'est toute l'humanité, parce qu'on peut potentiellement aimer tout le monde. On peut, d'ailleurs, tout au long de sa vie, on rencontre des nouveaux amis. C'est ça, d'ailleurs, un des charmes de l'histoire humaine, de l'histoire individuelle, c'est qu'on peut rencontrer des amis à tout âge.
Belle réponse. Luc Ferry.
Ah non, mais elle est vraie surtout. Pardon, c'est pas trouvé pour, comme ça, me tirer d'affaire. Non, je pense sincèrement ça. Moi, j'ai des amis qui sont très récents et qui sont très profonds et tout aussi forts que quand j'étais en classe de 3e.
Vous avez bien aimé votre classe de 3e ?
Non, j'ai détesté le lycée, mais j'ai aimé malgré tout cette classe de 3e parce que j'avais un ami
collège
que j'ai jamais retrouvé depuis.
Ah
non, j'ai détesté.
Un ministre de l'éducation.
Ah non,
c'est
j'ai
le
quitté
collège,
le lycée.
Le 3e.
Non, mais j'ai quitté le lycée en 3e à cause de ça. Mais j'avais un ami, tiens, son nom me revient à l'esprit, je ne sais même pas s'il est encore de ce monde, il s'appelait Yann Sesboué. D'ailleurs, c'est un nom unique, je crois, en France. Et on était très, très, très amis. Voilà. Et puis, je l'ai perdu de vue, évidemment, parce que j'ai quitté le lycée parce que je détestais le lycée.
Copain d'avant, Yann Sesboué.
Oui, voilà. Si jamais, s'il m'entend, mon petit Yann écrit. Écris-moi sur Facebook, je ne l'ai pas revu depuis 60 ans.
Écrivez-nous à
l'état d'esprit. Oh non, depuis 60 ans, j'exagère, je me vieillis depuis 50 ans. Allez,
Allez, depuis 20 ans.
Mais... Vous êtes mimi.
Luc Ferry, cette façon d'être heureux ou les paradoxes du bonheur chez Ixo. Et puis alors que je recommande chaudement aux petits et grands, c'est fou ce que les grands apprennent dans les livres. Des jeunes, en tout cas. Luc Ferry, la sagesse des mythes. Alors là, j'ai Jason et la Toison d'or, mais
il y en aura
30.
Il y en aura 30. Ah oui, c'est les 30 plus grands mythes grecs. Voilà, je les raconte en BD. J'adore ça avec mes amis dessinateurs qui sont formidables.
Là, il s'agit d'Alexandre Jubran et il y a également comme scénariste Clotilde Bruneau. Et puis, c'est chez Glénat. Et vous, à la fin, vous faites le professeur un peu, mais c'est intéressant.
Ah, mais c'est quand même mon vrai métier. Oui, c'est-à-dire que oui, je raconte la signification des grands mythes grecs, mais l'avantage des BD, là où j'ai vraiment une chance, c'est que les dessinateurs ont fait un énorme travail d'historien, d'iconographie, pour que tout soit absolument fidèle à ce qu'étaient à l'époque les armes, les vêtements, les bijoux, les bateaux, les maisons, les palais, etc. Ah. Et donc, de ce point de vue-là, c'est absolument parfait. Et évidemment, les récits sont totalement fidèles aux matrices des grands mythes grecs. Ça, j'ai travaillé comme un bœuf, si je puis dire, pour que vraiment il n'y ait pas de bêtises dans les récits, que ce soit absolument fidèle au texte originel.
Vous êtes un hyperactif ou vous vous reposez quelquefois chez vous?
Non, je ne me repose pas, non. Non, je travaille 12 heures par jour. Non, mais c'est une vraie...
Vous êtes fatigant pour votre entourage? Sympathique, mais fatigant quand même.
J'ai la chance d'avoir une femme qui travaille, qui a créé sa boîte, qui a une passion pour ce qu'elle fait. Donc elle fait des cadeaux personnalisés, elle fait des jolies choses. Bon, et puis,
c'est l'artiste.
Du coup, on est tous les deux hyperactifs, donc c'est pas grave. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien cette phrase de Baudelaire. J'avais trouvé ça, je me souviens, quand je passais la grecque de philo, qui dit « Un jour, j'ai compris, dit-il, qu'il était plus amusant de travailler que de s'amuser. » Voilà. J'ai toujours trouvé que c'était, quand on a la chance d'avoir un travail passionnant, ce qui est mon cas, d'écrire des livres, c'est vrai que le travail devient, c'est une véritable drogue, une addiction.
Non, mais quelle énergie! Si je vous mettais une dynamo sur la tête, on chaufferait la maison de la radio.
D'ailleurs, ça nous ferait du bien parce qu'on gèle dans le studio. Mais...
Restez avec nous. Merci, Luc Ferry. Dans État d'esprit, la semaine prochaine, nous évoquerons les sagesses chinoises avec Kewen et Dominique Lazaïs. Vous pouvez télécharger cette émission, aller sur le site d'État d'esprit. Vous pouvez également partager cette émission avec vos amis. Émission qui a été mixée par Adler Cochet, préparée par Fanny Leroy, réalisée par Simone Depoux. La programmation musicale était de Muriel Pérez.